3334 ans, que tous les jours, on prend leur chair et on la frit. Ils sont frits. Tu fais tchouva avant de mourir, tu fais tchouva une seconde. Tu as fait tchouva et un Kohen, et c'était un Shabbat, et dans le temple. On l'a mis dans homme et Dieu. Pourquoi? Parce que nos parents, c'est comme Dieu. Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yehiel ben Moshe, de mémoire bénie, dont l'anniversaire du décès sera le 28 Elul de cette année. Ok, chers amis, on va parler d'un sujet qui a à voir aussi avec Rosh Hashanah et la Tshuva, et aussi le parasha qu'on a lu hier. J'en ai parlé un peu dans mon Shabbat Shalom que je dis sur le site. La première mitzvah que nous voyons dans Parashat Kitavo, c'est la mitzvah de Bikurim. C'est quoi? Lorsqu'il y avait un nouveau fruit qui poussait dans le champ, d'accord, une nouvelle figue par exemple, alors le paysan allait mettre une petite signe, un morceau de jonc, qu'il attachait à la figue, et après il l'amenait en grande pompe à Jérusalem. Il y avait une procession avec des bœufs, avec des couronnes en or sur les cornes, et tout ce qui avait une profession aussi en Israël s'arrêtait de travailler pour se lever face à la procession de celui qui amenait les bikourim. Il amenait une figue, d'accord, pas grand-chose. Mais la figue, il y avait autour d'autres fruits, encore, il y avait beaucoup de décorations, tout ça, et on amenait au temple, et là-bas, le paysan lisait un texte, Mikra Bikurim, la lecture des bikourim, d'accord, qui est en fait un texte de remerciement. C'est un texte que nous lisons le soir de Pessah, dans la Haggadah. C'est un commentaire de ce texte. Ça commence « Arami Ovedavi, Vayerem Isaima, Bimtemea », etc. Tout ce texte-là, ce texte des Bikurim, que durant l'Haggadah, on prend un verset et on commente. Un deuxième verset, on commente. Ça, c'est l'essentiel de l'Haggadah de Pessah. Pourquoi? Parce que ce texte-là, il est le prototype idéal du remerciement. Et en fait, le paysan allait remercier Dieu, non seulement pour la figue qui vient d'arriver, mais il dit « Regarde où j'étais ». Quel nul j'étais. Mon arrière-grand-père était un vendeur d'idoles, idolâtre. Et après, Lavan, il a voulu me tuer, et tu m'as sauvé. Après, je suis descendu 70 ans terrien en Égypte. Après, on s'est multiplié, ça fait des miracles extraordinaires. Et après, tu nous as donné la Torah. Après, ils nous ont amenés ici, en terre d'Israël, et ici, au Temple. Pour bien exprimer notre reconnaissance à Hachem, il faut dire, quelqu'un qui dit merci, il ne faut pas dire merci pour ce que tu m'as donné. Merci, sans ce que tu m'as donné, qu'est-ce que j'aurais été? Un nul parfait, et j'apprécie donc beaucoup plus le cadeau que tu m'as fait. Et il y a une chose extraordinaire qui est écrite. Tout le monde connaît la dracha des sages d'Israël, c'est marqué « Bereshit barel okim teshamam et ares ». En Reshit, Dieu a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas au commencement, c'est en Reshit. Reshit, c'est un génitif. C'est, la bonne traduction en français, c'est « au début de ». Au début de, Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas du français, ce n'est pas d'hébreu non plus. Ça veut dire qu'il y a ici une erreur de syntaxe. Alors les sages d'Israël disent « c'est une dracha ». Il faut expliquer de façon allégorique. Bereshit signifie pour Reshit, pour quelque chose qui était Reshiti. Reshit, ça veut dire premier, quelque chose qui était au commencement, premier de tout. Dieu a créé le ciel et la terre. Qui sont ces deux premiers? Il y en a deux, Beth Reshit, deux Reshit, c'est Israël, peuple d'Israël et la Torah. Le but du monde, c'est que Israël fasse connaître à l'humanité entière les buts de la vie, la connaissance d'Hachem. La connaissance d'Hachem, c'est l'étude de Torah. C'est la Torah. Ce midrash est archi connu. Et un autre qui est archi inconnu. Il dit comme ça. Pour la mitzvah de Bikurim, dont je viens de parler, qu'on amène la première figue, d'accord? C'est pour les sept fruits de la terre, d'accord? Blé, orge, figue, olive, rimon, grenade, etc. Pour la chala, quand une dame à la maison elle fait du pain, faut une partie qu'elle doit donner au Kohen. Aujourd'hui, on le brûle, parce que c'est impur. Et pour les maasrot, ils sont en Israël, pour chaque produit de la terre, on donne des maasrot, on fait les prélèvements. Il y a plusieurs maasrot, Trouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni, etc. Pour cela, le monde a été créé. Pourquoi? Parce que dans ces trois mitzvot, c'est aussi marqué le mot Reshit dans la Torah. Bikurim, c'est marqué Reshit, Chala, c'est marqué Reshit, et maasrot, c'est marqué Reshit. Donc si c'est écrit au début de la Torah, pour Reshit, Dieu a créé le ciel et la terre, donc aussi pour sa mitzvot. La question se pose. Je comprends que tu crées le monde pour Israël, pour la Torah. Bon, c'est des choses grandioses. C'est le but du monde, c'est la connaissance d'Hachem. Mais tu as créé le monde pour une figue qu'on amène au temple. Tu as créé le monde pour un morceau de pain que la dadame, elle donne ça au Cohen ou elle le brûle et le met dans sa poubelle. Eh, ça tient pas la route. Pour ça, le monde était créé. Réponse oui. Pourquoi? Le Ramban Nachmanide, il dit que le but du monde, pourquoi Dieu a créé le monde? Lui, il veut donner. Qu'est-ce qu'il peut donner? Et le maître du monde extraordinaire. Eh bien, il va donner tout. Il nous donne la vie, il nous donne le monde, il nous donne l'intelligence, la parole, la vue, tout ça, tout ce qu'on a. Tout dépend de Dieu. Entre parenthèses, dans une semaine et un peu moins de 24 heures, on rentre dans Rosh Hashanah. À ce moment, tout ce qu'on a est annulé. Ta santé, ta vie, quand tu vas te marier, ta femme, tes enfants, ta maison, tout ce que tu as, tout ça n'existe plus. On va juger de nouveau maintenant, est-ce que tu as droit, oui ou non. On reprend tout à zéro. Et Dieu nous donne, et nous redonne, bien qu'on ait des fauteurs terribles. Mais on mériterait de disparaître sur place. Dieu te donne. À quoi ça ressemble? Il y a un midrash qui dit que le peuple d'Israël, il s'est révolté contre Dieu en sortant d'Égypte. Il est venu à Amalek. Comment il s'est révolté? Alors, Chazal dit, c'est comme un petit enfant qui dit à son père, « Papa, tu peux me prendre dans tes bras? Oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux être à ta hauteur. Mais pourquoi? Mais je veux pouvoir te gifler. » Quelle honte! Le père, il a mis au monde le fils. Et le fils dit, « Papa, tu peux... » Il le prend comme ça pour me le gifler. Dieu nous donne la vie. Il nous donne la puissance, demande l'intelligence. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait? La shonara. Ce dont Dieu a en horreur. On regarde une fille dans la rue, on ment. Toutes nos mauvaises midotes, mesquins, avares, paresseux, envieux, coléreux, etc. Hachem Ishmor. Dieu, il ne veut pas ça. Mais en même temps qu'on est en train de pécher contre lui, lui flanquer une tarte, à Dieu ne plaise, il continue à donner la force, on devrait disparaître sur place. Combien on doit être reconnaissant à Hachem? Pourquoi il fait ça? Il nous laisse pour qu'on puisse faire tchouva. Il devrait nous faire disparaître sur place. Il dit, ok, je laisse du temps, tu peux revenir. Mais messieurs, c'est maintenant qu'il faut revenir. C'est maintenant. Il y a un type qui fait une très grande mitzvah. Il écrit des petits billets comme ça, quotidiens, avec un petit moussard. Il met ça dans l'ascenseur. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ascenseur? Bon, on perd son temps. Et plus quelqu'un habite haut, alors plus il perd son temps. Alors il a mis dans l'ascenseur qu'on puisse lire un petit truc. C'est bon, alors on peut lire un peu de moussard. Il a mis un moussard extraordinaire cette semaine. Je reviens tout de suite sur les bikurim, mais je ne peux pas ne pas parler maintenant de la période dans laquelle nous sommes. Il faut faire tchouva. Tout le monde connaît l'histoire de Korach. Korach s'est révolté contre Moshe. Il faut le faire. D'accord. Mais c'est un très très grand homme, il y avait Ruach HaKodesh. Lui et toute sa communauté, 200 personnes et leur famille, ont été avalés par la terre. La terre s'est ouverte, tribouk, avalée. Ok. Alors, on raconte que Rabba Bachana, une fois allé dans le désert, et Yohanavi lui a dit, tiens, tu veux que je te montre Korach et sa communauté? Il y avait un trou comme ça, il y avait de la fumée qui sortait. Et Yohanavi, il a dit, tiens, voilà, il a pris une longue perche comme ça, il a mis un peu de coton mouillé, il a descendu, tchit, il a ressorti, complètement carbonisé. Tellement du feu était là. Et qu'est-ce qu'on entend là-bas? Rabba Bachana met son oreille, il entend Moshe Emet, Torah Torah Emet. Moshe, il est vrai, et sa Torah, elle est vraie. Qui c'est? Lui dit Yohanavi, c'est Korach et toute sa communauté là-bas. Ils sont en train, fait 3000, aujourd'hui 3334 ans. 3334 ans. Que tous les jours, on prend leur chair et on la frit. Ils sont frits dans une casserole. Et eux, ils crient, on a fait tchouva, Moshe Emet, Satora Emet. Et tous les jours, on les frit de nouveau dans une température à chemise mort. Les fils de Korach, lorsque la terre s'est ouverte, ils ont eu un Yihur Tshuva. Ils n'ont pas eu le temps de faire le vide. On s'est trompé, on regrette. Clac, il y a eu une petite pyramide, comme ça, une petite montagne qui s'est faite dans le précipice, et ils ont été sauvés. Tout le reste sont tombés en enfer. De là, on apprend un moussard terrible. Tu fais Tshuva avant de mourir, tu fais Tshuva une seconde. Tu as fait Tshuva. Tu n'as pas fait Tshuva ici sur terre. Tu fais tchouva 3334 ans et c'est pas fini si ma chair ne vient pas. En enfer! Et tous les jours, on prend ta chair et on la frit et de nouveau, et tu cries, je reconnais que je me suis trompé, ça sert à rien. Trop tard, Balthazar! Mais ce, c'est maintenant. On espère que Mashiach vient, comme c'est écrit, en sortant de septième année. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. On va se taper la tête dans les murs, moi en premier, nous tous. Une seconde trop tard. Une seconde avant, c'est bon. Une seconde trop tard, c'est trop tard. Donc, en venant à cette fête de Rosh Hashanah, on doit énormément penser à la reconnaissance qu'on doit avoir d'Hachem pour tous les biens qu'il nous fait. Et faire choix dans ce sens, une choix d'amour. Combien on doit reconnaître tous les bienfaits qu'Hachem nous fait? À quel point c'est important? On voit que, pour toi la montée, j'ai commencé à expliquer le Ramban, Nachmanid, il dit que la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, il veut tout nous donner. Il veut qu'on soit reconnaissant envers lui, qu'on le dise merci. Ce n'est pas qu'il a besoin de mon merci, mais quand je suis reconnaissant de la, du bien que Dieu m'a fait, je me branche avec Hachem, je suis avec lui, je le vois à chaque seconde, je vis avec lui. Non seulement ça m'amène beaucoup, beaucoup de bénédictions, ça c'est évident. Laisse ça de côté. Par le fait que tu vis avec Hachem, d'abord tu es heureux, tu sens que Dieu t'aime, tu vois tous les bienfaits qu'il te fait. Moi j'ai vu des gens qui ont, le Rabbi Slam Bachaou, c'était une grande génération. Quelle souffrance! Il y avait un organe qui fonctionnait chez lui, malade de tous les côtés. Quel bonheur il avait! Quel bonheur! Il est avec Hachem, il est avec Hachem, il y a besoin de plus que cela. C'est le but de la création, qu'on remercie Hachem, qu'on le loue, comme ça on est branché avec lui. Et regardez à quel point la Torah, elle est exigeante à ce niveau-là. Il y avait un roi d'Israël qui s'appelle Yoash. C'est quoi son histoire? Sa grand-mère s'appelait Ataliaou. Ataliaou, Ataliaou. C'était une grande perverse, d'accord? Et son fils, Ahaziaou, était le roi d'Israël. Le roi d'Israël a été tué. Sa mère, voulant pas qu'il y ait d'autres personne qui devienne roi d'Israël, la descendance du roi David, elle a tué tous ses enfants et petits-enfants. Tous morts. Fini. Il n'y a plus de royauté d'Israël. Son petit-fils s'appelait Yoash, qui était devenir le roi d'Israël. Il a été caché. Où le grand Cohen, qui s'appelait Yehoyada, l'a caché. Quel meilleur cachet qu'on puisse avoir ici à Yerushalayim, un endroit où personne ne va jamais. Le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints. Le petit gosse, il grandit dans le Saint des Saints, il ne sort jamais de là-bas. Et Yehoyada le grand Cohen, il lui enseigne la Torah, etc., etc., etc. Puis un beau jour, Yehoyada dit, voici le roi, il l'amène, et tout le monde le reconnaît. Ataliaou voit ça, ils l'ont tué Ataliaou, etc., il devient le roi d'Israël. Et la Torah dit, la Bible dit que tant que Yehoyada était vivant, alors Yoash, il était guidé par, il était éduqué et guidé par Yehoyada, mais qui est le roi d'Israël, Yoash, mais il allait dans la bonne voie. Un beau jour, Yehoyada le Cohen, il est décédé. Et Yoash commence à écouter ses copains. Il lui dit, tu sais, comment tu as pu survivre dans le Saint des Saints? Quelqu'un qui rentre là-bas, même Cohen Gadol est rentré à Kippour, c'est pas, il avait une mauvaise pensée, il mourrait sur place. T'es un dieu. Arrêtez, ça va. Non, t'es un dieu. Sati Charim, il dit, il faut faire super attention aux gens qui nous entourent. Chacun qui a un rôle de direction, les gens qui sont autour lui font des salam alek toute la journée. Au bout d'un moment, il commence à y croire, pauvre type. D'accord? C'est comme ça, pour les gens qui sont très riches, on leur fait des salam alek le jour et nuit. Et qu'est-ce que tu as? Tu as de l'argent à cause de ça, tu es quelqu'un de meilleur. Très souvent, tu es un pauvre type aussi, d'accord, pour avoir cet argent. Rockefeller, il a dit, je suis prêt à expliquer tout l'argent, comment j'ai fait, mais à part le premier million. Million, ça je raconte à personne. C'était malhonnête, d'accord. Après, une fois que tu as un million, tu peux faire beaucoup de millions avec, d'accord. Alors, il y en a qui sont très honnêtes, ça existe aussi, mais il faut bien vérifier. Alors, chacun qui a un rôle de direction, on lui fait des salam alek, au bout d'un moment, il commence à y croire. Jérémy dit, c'est comme un serpent qui vient te mordre, tu ne dois pas l'écouter. Et c'est très dur, parce qu'on est entouré sans cesse de cavotes, commence à y croire. Et le pauvre Yoash, il commence au bon moment à y croire que vraiment il est un dieu. Comment c'est vrai, ils ont raison, on lui dit ça, on lui fait un laval de cerveau. Comment t'as tenu, t'es un dieu, commence à y croire. Et il est parti en cacahuète complètement. Un jour de Yom Kippour, qui tombait Shabbat, il y avait le fils de Yehoyada, du Kohen Gadol, c'était Zechariah, il s'appelait. C'était un prophète. Et un Kohen. Un tzaddik, un grand Tamil Chacham. C'est marqué dans le texte qu'un esprit de Dieu est venu sur lui. Il a commencé au temple, le jour de Kippour, à faire une tochecha, à corriger le peuple d'Israël jusqu'à quand vous continuez à faire vos péchés, faites tchouva, machin, etc., etc. Et ça dérange, on n'aime pas qu'on nous dise quoi faire. Le roi Yoash ordonnait, lapidez-le! Tout le monde prend les pierres, tac, pouf, le tue. Péché terrible. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu ramener proche de Dieu. Tu tues un Kohen, un Navi, un prophète, un Tamil Chacham, un Shabbat qui tombe Yom Kippour, au temple, dans l'enceinte du temple. Terrible! La Gemara dans Gittin, page 57, raconte que le grand conquérant babylonien, Nebuchadnezzar, il est venu en Israël, il a tué des millions de gens. Et il a vu un moment une tombe, il y avait du sang sur la tombe qui bouillonnait comme ça.